Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qu'il lit ?
Qu'est-ce qu'il lit ?
Delamo. C'est sous ce titre de plume que Jean-Baptiste Ney Garcia signe ses ouvrages. Prix du jeune écrivain de langue française, finaliste du concours des lycéens, prix Goncourt du premier roman, médaille d'argent du prix François Mauriac et plus récemment prix du roman Fnac. Je m'arrête là, vous l'aurez compris, l'auteur que je reçois a su imposer son style et le faire reconnaître par ses pairs et par les lecteurs. Ses livres parlent de la quête identitaire, de la transmission familiale, du rapport à la nature, aux animaux. Jean-Baptiste Delamo y tisse un univers à l'écriture sensible et aussi précise que puissante. On le retrouve pour le Qu'est-ce qu'il lit du monde, enregistré au Salon du Livre du Mans.
Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ? Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Jean-Baptiste Delamo.
Bonjour.
Nous sommes ensemble dans ce petit studio, on l'espère au calme, loin de l'effervescence du Salon du Livre du Mans, pour connaître votre rapport à la lecture et à la littérature et voir comment les livres ont peut-être été des jalons dans votre fabrique d'écrivain. Pour raconter ce rapport-là, je vous propose une sorte de questionnaire de Proust élaboré par le monde des livres. Et je vais commencer par une question qui, je l'espère, va vous faire sourire et peut-être vous faire rire. Quel est le livre qui a provoqué ces éclats-là ?
À la recherche du temps perdu de Proust.
On ne s'attend pas à une telle réponse.
Ah ben pourtant, c'est un livre qui est une satire terrible du milieu de la bourgeoisie, des salons, etc. Et très souvent, je suis hilar en lisant les tomes de la recherche.
Il y a un moment qui vous a marqué particulièrement ?
Oui, très certainement dans Sodome et Gomorre, la peinture qui est faite des personnages, du personnage de Charlus en particulier, de son homosexualité, de son rapport aux autres hommes en société. Je trouve que c'est vraiment très très drôle, ouais, très caustique.
Si vous étiez l'héros d'un livre, est-ce que vous aimeriez être l'héros d'un roman satirique ?
Non, si je devais choisir, ce serait quelque chose de plus fantasque. Ce serait sans doute Harry Potter, par exemple. Ouais, j'aime bien l'idée de me retrouver à Poudlard et d'avoir moi aussi une baguette magique.
Et vous feriez quoi avec cette baguette magique ?
Ben à peu près tout ce qui est proposé dans Harry Potter, la diversité des sorts, c'est un rêve de gamin quand même. Voilà.
Est-ce qu'Harry Potter, c'est un livre qui vous a déjà fait rater votre station, votre train ?
Harry Potter, peut-être pas. Pas, mais ça aurait tout à fait pu, parce que j'ai quand même eu... je l'ai lu tard, j'étais déjà adulte, et pourtant, en le lisant, je trouve que c'est un livre formidable. Et j'ai vraiment retrouvé des sensations qui étaient celles de mes lectures de jeunesse, où je pouvais pas décrocher, où j'étais complètement happé par une lecture. Ouais.
Quel livre ne vous a pas fait décrocher quand vous étiez enfant ?
Je pense que c'est sans doute les livres de Stephen King qui ont eu l'effet d'une fascination sur moi quand j'étais ado. Je me souviens très bien de ma lecture de Misery, où j'étais complètement immergé dans cette histoire, ce personnage d'auteur aux prises avec cette ancienne infirmière complètement folle et devenue fan de ses bouquins. J'avais trouvé ce texte vraiment extraordinaire. Je ne l'ai jamais relu depuis, mais par crainte d'être déçu finalement, parce que j'en garde une expérience de lecture dingue.
Misery de Stephen King. Il y eut un bizarre moment de silence, et Paul fut effrayé par ce qu'il vit sur son visage, ou plutôt par ce qu'il n'y avait pas. Un visage vide, le néant d'une crevasse cachée sous les plis d'une prairie de montagne. Des ténèbres où ne poussait aucune fleur et dans lesquelles une chute pourrait durer longtemps. Le visage d'une femme qui venait de larguer momentanément tous ses ancrages vitaux, tous ses points de repère, une femme qui non seulement avait oublié le souvenir qu'elle était en train de raconter, mais toute une mémoire.
Est-ce que c'est le livre d'enfance que vous aimeriez relire ou y en a-t-il d'autres ?
Le livre d'enfance que j'aimerais relire, ce serait certainement Le Hussard sur le toit de Giono. Alors c'est plus un livre d'adolescence pour le coup, mais c'est un des livres qui a participé à ma découverte de la grande littérature, de la littérature classique.
Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Le jour s'assombrit peu à peu. La pluie commença par n'être qu'une fine mousseline tiède, puis s'écoula en blocs de plus en plus pesants pendant une quarantaine d'heures. Sans rage, avec une sorte de paix tranquille. Enfin, il y eut un coup de tonnerre magnifique. c'est-à-dire avec une belle déchirure rouge, est tellement retentissant que les oreilles s'entrouvèrent toutes débouchées. Le ciel s'ouvrit. De chaque côté de la fente, des châteaux vertigineux de nuages s'étagèrent et le ciel apparut azuré à souhait. À mesure que les châteaux de nuages s'éloignaient l'un de l'autre, découvrant de plus en plus du ciel, l'azur vira au bleu de gentiane et tout un ostensoir de rayons de soleil se mit à rouer à la pointe extrême des nuées.
Lorsque vous avez lu ce livre, quelle image aviez-vous de la grande littérature classique ?
Alors, je pense que pendant longtemps, c'est une littérature qui m'a semblé un peu inaccessible. Tout d'abord, parce qu'il n'y avait pas énormément de livres chez moi. Finalement, les livres que je lisais, je les empruntais en bibliothèque. Et pour moi, du coup, la littérature classique, c'est une littérature très scolaire. Donc plutôt rébarbative finalement. C'est relativement tard que j'ai compris qu'en fait cette littérature-là était non seulement accessible, mais que j'avais presque le sentiment qu'en fait elle m'était destinée quelque part. C'est ça, quand on rencontre un livre, on a l'impression qu'il a été écrit pour nous.
Et est-ce que parmi des chefs-d'œuvre, il y en a qui vous tombent des mains ?
Oui, certainement Belle du Seigneur d'Albert Cohen, que j'ai jamais réussi à lire. Ouais.
Vous ne l'avez pas terminé ?
Non, je ne l'ai pas terminé. Alors, je pense que j'y reviendrai, parce que parfois aussi, un livre vous tombe des mains à un instant de votre vie et vous pouvez le rencontrer plus tard. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit un mauvais livre. Je pense juste que ce n'était pas le bon moment pour moi. Et j'y suis pas retourné depuis, mais très certainement, je pense qu'un jour, je retenterai l'expérience.
Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer, et à aimer peu. Et il leur faut des entretiens et des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Un battement de ses paupières, et elle me regarda sans me voir. Et ce fut la gloire, et le printemps, et le soleil, et la mer tiède, et sa transparence près du rivage, et ma jeunesse revenue, et le monde était né. Et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes d'elles annonciatrices et servantes.
On parlait de votre enfance. Jean-Baptiste enfant lisait où ?
J'aimais beaucoup lire dans mon lit, le soir, et très souvent à la lueur d'une lampe de poche, parce que je lisais des thrillers, des bouquins de littérature horrifique que je n'avais pas le droit de lire, et du coup je devais les lire en cachette. Donc ça participait aussi de ce sentiment comme ça d'interdit qui était très séduisant.
Qui les lisait chez vous, ces livres dont vous n'aviez pas droit ?
Ben moi, essentiellement. Alors, je les planquais au milieu de mes autres bouquins dans ma petite bibliothèque pour qu'ils ne soient pas repérés par ma mère qui essayait de contrôler un peu ce que je lisais. J'étais très friand, notamment d'une vieille collection qui était chez Pocket, qui s'appelait la collection Terreur, où étaient publiés des auteurs anglo-saxons, essentiellement de livres horrifiques. Et j'étais fou de cette collection.
Est-ce qu'il y a un écrivain, une écrivaine avec lequel ou laquelle vous aimeriez passer une soirée ?
Est-ce que ça peut être un auteur mort ?
Ça peut l'être. Soyons fous.
Oui, je dirais sans doute David Wojnarowicz, un auteur américain qui m'a beaucoup touché, qui me bouleverse toujours et dont j'ai toujours, enfin avec lequel j'ai toujours senti une forme de proximité. Et du coup, voilà, c'est un personnage dont j'ai beaucoup entendu parler par des gens qui l'ont connu, etc. Je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé partager un instant. Ouais.
Pourquoi vous sentez-vous proche de lui ?
Il y a un rapport chez lui au temps qui passe, au désir, à la sexualité, à la mort, aux animaux. Il y a comme ça une sensibilité commune, en fait. Ça fait partie de ses œuvres qu'on rencontre en tant qu'écrivain et que l'on reconnaît comme des œuvres sœurs.
À quoi tient la sensibilité dans vos livres et dans les livres que vous lisez ?
Bah, c'est très difficile à définir. La sensibilité qu'il y a dans mes livres, c'est évidemment celle qui est la mienne. C'est quelque chose de très subjectif, de très personnel. C'est ma manière de regarder le monde, de poser un regard sur le monde. C'est aussi une sensibilité qui est perçue à travers mes obsessions, mes craintes, mes désirs, etc. Donc voilà, mes textes sont pétris de ça. Et inévitablement, en tant que lecteur, quand je retrouve ça aussi, cette résonance-là dans d'autres œuvres, il y a quelque chose qui me parle, qui me touche au cœur.
Est-ce qu'il y a un livre dont vous désirez écrire la suite ?
Dans l'absolu, non. Mais si j'avais dû écrire la suite d'un livre et d'un livre important pour moi, ça aurait été probablement Les Liaisons dangereuses, parce qu'on a tous envie de voir Merteuil prendre à nouveau sa revanche.
Est-ce que Choderlos de Laclos pourrait être un auteur que vous aimez lire, mais que vous ne voudriez pas rencontrer ?
À vrai dire, je me suis jamais véritablement intéressé au personnage. Pour le coup, c'est vrai que je n'ai même pas de représentation, à vrai dire, de qui était véritablement Choderlos de Laclos. Ce que je sais, c'est simplement que presque le livre a éclipsé l'auteur. Il était l'auteur d'un roman, devenu à ce point culte que finalement il a disparu derrière son œuvre. On a l'impression que ce texte existe par lui-même, qu'il a presque jamais été écrit, qu'il a toujours été là. En tout cas, pour moi, il figure clairement au panthéon des plus grands textes que j'ai lus. Ouais.
Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice dont vous aimez l'œuvre, mais vers qui vous iriez à reculons si l'occasion se présentait ?
Oui, très certainement. La plupart des auteurs, à vrai dire, parce que très souvent, surtout quand on a aimé les textes, j'ai tendance à déconseiller de rencontrer les auteurs, parce que parfois ça se solde par une déception cuisante.
Et vous dites ça à un salon du livre ?
Je dis ça à un salon du livre, oui, parce que même pour moi, j'avoue qu'en tant que lecteur, je trouve que la démarche d'aller faire signer un bouquin, d'aller rencontrer un auteur, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi, qui me semble toujours un peu étrange. Mais oui, par exemple, moi je suis un lecteur de Elfriede Jelinek. Je ne suis pas certain que je m'éclaterais à passer un dîner avec Elfriede Jelinek.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que j'ai... Bon, déjà, elle a l'air quand même assez austère. Ses textes sont d'une froideur clinique qui est un peu effrayante. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de sa maison. Même sa maison est flippante. Donc, on se dit non, ça ira, je n'ai pas envie d'aller dîner avec elle.
Est-ce que votre premier souvenir de lecture est justement ce que vous décriviez à l'ombre d'une petite lampe de poche dans votre lit ?
Non, les premiers souvenirs de lecture, c'est vraiment des textes d'enfants sur des albums illustrés. C'est Jacques Prévert, Le gardien du phare aimait trop les oiseaux. C'est plus tard Kafka, La métamorphose. Ça a été pour moi aussi, quand je parlais tout à l'heure de rencontre avec la littérature classique. La métamorphose reste pour moi un des souvenirs les plus forts de ce que pouvait susciter la littérature chez un enfant.
La métamorphose de Franz Kafka. La pomme, que personne n'osa extraire du dos de Grégoire, demeura incrustée dans sa chair comme un souvenir palpable de l'événement, et la grave blessure dont il souffrit pendant plus d'un mois sembla avoir rappelé au père lui-même que malgré sa triste et répugnante métamorphose, il n'en demeurait pas moins un membre de la famille. Il ne fallait donc pas le traiter en ennemi. Le devoir exigeait, au contraire, qu'on surmontât son dégoût et qu'on supportât Grégoire, qu'on le supporta seulement.
Qu'est-ce que ça a métamorphosé en vous, cette lecture, alors ?
En fait, j'ai compris la puissance d'évocation de la littérature, parce que je me souviens très bien, dans La Métamorphose, à un moment donné, la sœur de Grégoire prend peur devant son frère transformé en cafard, alors qu'elle lui apporte à manger, et elle va lui jeter une pomme très violemment, et cette pomme va venir se ficher dans la carapace de Grégoire, et en fait va y pourrir. Et il y a une description de cette pomme qui le fait terriblement souffrir, parce qu'il ne peut pas s'en débarrasser, et qui pourrit à l'intérieur de lui. Et j'avais presque la sensation, en le lisant, de sentir moi-même la pomme enfoncée dans mon flanc. Et je me souviens très bien de cette impression-là, enfin, obscurément, parce que je ne l'ai pas réfléchi de cette façon-là, mais en tout cas de prendre conscience de la puissance d'évocation de la littérature.
Est-ce qu'il y a des livres qui vous réconcilient avec l'existence ?
Les miens ? Ça peut paraître très égocentrique de dire ça, mais c'est la réalité. Enfin, écrire, pour moi, c'est une façon de me réconcilier avec l'existence, de comprendre le monde, d'essayer de donner un sens à ma vie aussi. Donc, inévitablement, ce sont les miens, oui.
Et quel sens prend votre vie avec vos livres progressivement publiés ?
Je sais pas, c'est très difficile de le dire, parce qu'en plus je crois pas du tout à la postérité ni quoi que ce soit, c'est pas du tout des questions qui me préoccupent, mais simplement j'ai l'impression qu'en créant des univers, en racontant des histoires, je participe très modestement à quelque chose, je ne saurais pas dire quoi, en tout cas voilà, ça me donne le sentiment peut-être d'une très modeste utilité.
Vous offrez des livres comme cadeau ?
Oui, j'offre des livres comme cadeau, même si c'est toujours à double tranchant d'offrir des livres, et en particulier, généralement, on offre des livres qu'on a adorés, qu'on estime que les gens qu'on aime doivent lire. Le risque étant qu'ils puissent ne pas les lire, soit ne pas les aimer. Et alors là, c'est parfois des déceptions terribles, parce qu'on s'aperçoit que voilà, ce texte-là n'a pas été reçu comme on l'espérait, et voilà, ça peut être une petite blessure.
Et quel livre a été bien reçu dans vos récents souvenirs?
Très souvent, j'aime bien offrir un livre de Tristan Egolf qui s'appelle Le Seigneur des Porcheries, qui est un texte qui m'a beaucoup impressionné et qui est lu par des connaisseurs. J'ai l'impression que c'est un livre qui circule, comme ça, qui continue de circuler chez des initiés et qui petit à petit a une réputation comme ça, qui est devenue de plus en plus importante. Et c'est un texte que j'aime bien offrir. C'est un texte très foisonnant, à tiroir, avec une intrigue extrêmement complexe, un univers terreux, du fait enfant des États-Unis. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se révèle.
Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egolf. On le détestait et l'exécrait peut-être autant qu'auparavant, mais par la suite, plus personne n'osa même le regarder de travers. De l'avis général, si vous songiez à maltraiter le petit Kaltenbrunner, il valait mieux prévoir de l'achever tout de suite. Sinon, vous, et très probablement toute votre famille, regretteriez ce jour votre vie entière. Tout le monde en avait la chair de poule.
Et à contrario, un livre qui a déçu autour de vous et qui pourtant vous avez emballé ?
Laissez-moi réfléchir, un livre que j'ai pu offrir et qui a déçu. Non, j'en ai pas vraiment, parce que finalement, les gens ont au moins la politesse de ne pas me le dire. Soit de me dire qu'ils ne l'ont pas encore lu, soit de pas me dire qu'ils ne l'ont pas aimé. Voilà, après, c'est vrai qu'un texte... En fait, j'offre pas des textes à l'aveugle, quand même. C'est-à-dire que je vais offrir des livres à des personnes que je connais suffisamment pour pouvoir cibler à peu près le roman qui devrait leur parler, quoi, qui les touchera.
Et quel est le livre pour aimer lire ? C'est le thème de ce salon du livre du Mans.
Mais il n'y a pas de livre pour aimer lire, en fait. J'ai l'impression que souvent, on a tendance... Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de Stephen King, j'ai parlé de littérature de genre, parce que moi, je suis venu à la lecture par cette littérature-là, qui aujourd'hui est un peu regardée avec mépris. Or, j'ai l'impression, j'ai aussi parlé de Harry Potter, j'ai l'impression que tous les textes peuvent donner envie de lire et peuvent ouvrir à la littérature, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve très important, par exemple, sur Harry Potter, je trouve ça extraordinaire que des gamins aient eu l'envie, le désir de lire des pavés de 600 pages, une série de plusieurs tomes. Et très certainement, pour nombre d'entre eux, ça a été aussi une porte d'entrée dans la littérature.
Quand vous êtes-vous dit que vous aimiez lire ?
Alors très certainement dès que j'ai su lire, mais j'ai appris à lire relativement tard parce que j'ai eu des difficultés d'apprentissage de la lecture. Mais très rapidement, en fait, lorsque j'ai maîtrisé les rudiments de la lecture, j'ai été fasciné par les livres. Pour moi, c'était des objets très très particuliers. Et j'ai vraiment senti que ça pouvait être une forme de projection de mon imaginaire. Et plus tard, quand j'ai commencé à écrire vers 11 ans, 12 ans, je dirais, que c'était une manière de continuer aussi cette expérience-là de l'imaginaire et de me l'approprier.
Quel est le livre que vous voudriez avoir lu avant de mourir ?
Alors, c'est pas tellement un livre que j'aimerais avoir lu, mais que j'aimerais avoir relu. Et ce serait là aussi À la recherche du temps perdu de Proust, parce que je trouve que c'est un livre tellement complet, tellement riche, qu'à chaque lecture, on en découvre des tonalités, des aspects différents, et qu'en fait, il est à la fois inépuisable, et j'ai l'impression que c'est peut-être le livre, pour moi, qui englobe véritablement ce qu'est la vie.
À la recherche du temps perdu, tome 1, du côté de chez Swann, de Marcel Proust. Vois-tu, il n'y a que deux classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivée à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner, se tenir à ceux qu'on aime et, pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à sa mort.
Qu'est-ce que vous avez donc découvert dans une dernière lecture de Proust ?
Le fait que Proust est en fait un auteur de la sensation, qu'en lisant Proust, on est traversé en lisant cette langue qui se déploie, qui agit presque de façon hypnotique. On est véritablement traversé par des sensations physiques. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie aussi de déployer à ma manière dans mes romans. Et inévitablement, de voir un auteur parvenir à cet objectif-là, c'est fascinant, en fait, c'est complètement captivant et c'est quelque chose qui m'a toujours séduit dans la lecture de Proust.
L'hypnose, c'est l'état dans lequel vous aimeriez que vos lecteurs soient ?
Oui, bien sûr, parce que c'est un état de semi-conscience et à la fois, ça peut aussi être un état de conscience exacerbée. Et sans doute qu'un livre, c'est aussi ce que ça nous propose, à la fois une expérience qui est au-delà de la réalité et qui pourtant aussi nous raccorde à une forme de conscience extrêmement aiguë de ce qu'est l'instant, de ce qu'est la vie, de ce qu'est le monde.
Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous ne pouvez pas lire ?
Non, vraiment pas. Je suis capable de lire même dans des endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, des endroits en mouvement, que ce soit le train, l'avion, alors peut-être moins la voiture, parce que voilà, c'est pas le plus agréable, mais sinon, non, je trouve que la joie, justement, de la littérature, c'est qu'elle puisse être transportée partout et qu'elle puisse, nous, à tout instant, nous permettre de décrocher de ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent, quoi.
Est-ce qu'il y a justement des livres qui sont plus propices à des voyages ou des déplacements quand on est en train de lire ?
Oui, certainement. Moi, généralement, quand je pars en voyage, je prends un livre qui me résiste, c'est-à-dire un livre que je n'ai pas réussi à lire jusqu'à présent et je ne prends que celui-là. C'est-à-dire que je sais que finalement, pendant le voyage, je serai obligé de le lire parce que je n'aurai pas la possibilité de passer sur un autre bouquin. Donc, par exemple, ça a été le cas d'un texte que j'adore, qui est « Sous le volcan » de Malcolm Lowry, mais qui n'est pas une lecture évidente. Et je l'avais emporté avec moi lors d'un voyage à Cuba. Et finalement, n'ayant que ce texte-là, j'avais réussi à aller au bout, finalement. Donc voilà, ça avait été l'expérience à la fois du voyage. J'aime bien ça, en plus, que l'expérience du voyage soit colorée par l'expérience unique d'une lecture.
Quel livre récent avez-vous envie de lire ?
Sans doute, là, j'ai envie de lire un bouquin d'un auteur qui s'appelle John Foss, qui vient de sortir chez Bourgois et qui s'appelle... L'autre nom. Voilà, c'est un texte dont j'ai beaucoup entendu parler, qui va être publié en plusieurs tomes, qui a l'air d'une œuvre très importante. Et donc voilà, c'est, je pense, une de mes prochaines lectures.
De quoi parle ce livre ?
Je n'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Une histoire de peintre, une histoire de double. Voilà, ça a l'air d'un texte assez étrange, avec deux personnages qui portent le même nom, et des réflexions, quelque chose d'assez contemplatif. Voilà, ce que j'en ai saisi comme ça à la volée, m'a dit, tiens, je sais pas, attiré mon attention. Parfois, ça repose sur peu de choses, l'envie de lire un livre. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça sera une lecture pour moi.
Lecteur, vous n'êtes pas un inconditionnel des quatrièmes pages de couverture pour vous décider ?
Non, pas nécessairement. Ça peut, bien sûr. Hein. Il m'arrive d'être séduit par une quatrième de couverture. Mais parfois, ça peut être simplement un titre. Ça peut être un bouquin que je vais ouvrir au milieu, feuilleter deux, trois pages et me dire, tiens, il y a quelque chose dans la voix, dans le style, dans les images qui vont me titiller et qui vont me donner envie de lire le bouquin.
J'en parlais dans l'introduction. Quels sont les livres qui ont finalement été les moments marquants de votre fabrication d'écrivain ?
Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de livres ou d'auteurs. C'est un mélange des deux, en fait. Par exemple, l'œuvre de Virginia Woolf a été importante pour moi. L'œuvre de Faulkner aussi. Ce sont des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur le flux de conscience et que ça a été une technique d'écriture qui m'a marqué, qui m'a intéressé, qui m'a permis de réfléchir, moi aussi, à ma propre approche de l'écriture. Mais il y a aussi des livres qui finalement figurent parmi les textes qui m'ont véritablement influencé. Alors j'ai parlé de Proust, mais je pourrais parler aussi des Fleurs du Mal, de Baudelaire, de la poésie de Georg Trakl, des textes de Cormac McCarthy. Voilà, c'est tout un ensemble de références qui continuent encore aujourd'hui de m'accompagner dans mon parcours de romancier.
Autant donc d'invitations à la lecture pour conclure cette émission. Merci infiniment Jean-Baptiste Delamont.
Merci à vous.
J'en profite pour citer votre tout dernier livre, Le Fils de l'Homme, aux éditions Gallimard. Vous pouvez retrouver la série de podcasts des Qu'est-ce qui lit, enregistrée au Salon du Livre du Mans, sur lemonde.fr et les plateformes habituelles de podcasts. À bientôt et bonne lecture.